On le fait en duo. On aime bien travailler ensemble avec Pierre. On travaille dans le même laboratoire, l'Institut Charles Sadron, qui est sur le campus de Cronenbourg. C'est souvent connu, c'était connu à Strasbourg sous le nom de les macromolécules, quand c'était rue Boussingault, voilà, qui est un assez gros laboratoire CNRS autour de la science des polymères et de ce qu'on appelle la matière molle. Donc moi je suis Thierry Charita, je suis enseignant-chercheur ici à la faculté, un collègue de Thierry et puis Pierre et CNRS.
Ouais, moi je suis donc au CNRS dans le même laboratoire que Thierry, et donc on est aussi dans la même équipe.
Et donc l'idée de la série, hein, c'était des expériences qu'on peut faire chez soi. Donc on a essayé de jouer ce jeu-là. On va faire deux séances. La première s'appelle Marcher sur l'eau. On va essayer d'introduire les notions de tension de surface, de voir quelques expériences, alors qui, pour le domaine, sont assez classiques. Si vous connaissez déjà le domaine, probablement que vous allez vous ennuyer un petit peu, mais c'est toujours un peu dur de savoir ce qu'on doit faire. On s'est mis un petit peu comme idée que c'était des expériences de physique. Et donc, quand on fait des expériences de physique, il ne faut pas simplement montrer des choses, il faut essayer aussi de mesurer, de modéliser et d'en déduire une compréhension de ce qui se passe à l'échelle microscopique souvent. Alors là, on va voir qu'on va être resté un petit peu intermédiaire. C'est des expériences qu'on peut faire vraiment chez soi. Essentiellement, vous allez voir, on a des petits tuyaux plastiques style des pailles. Alors c'est vrai qu'on n'a plus le droit de. On vend plus des pailles aujourd'hui, mais on peut trouver l'équivalent. Ça peut être des tiges de Lego, ça peut être plein de choses. On va utiliser des pâtes, des choses qu'on a fabriquées avec des tuyaux, de la gaze pour les pansements. Enfin, on vous racontera ça au fur et à mesure. Donc, a priori, on peut tout faire. Et puis, de l'eau, du produit vaisselle. Si on a que ça intéresse, on peut aussi distribuer une recette d'une solution miracle pour faire des bulles géantes, si vous avez envie de faire des bulles géantes. On avait fait, il y a 2 ans, 3 ans, on avait fait une série aussi de 3 cours avec une collègue, Vipke Den Trenkan. Alors, ça va être un petit peu lié, mais là, on insiste plutôt sur le côté expérimental. La recette est là. Nous, la solution qu'on a fait, c'est pas la recette miracle. On n'a pas besoin réellement d'avoir des bulles qui tiennent très longtemps. Donc, du coup, on l'a fait au plus simple. Et la séance de la semaine prochaine sera autour de. Alors, ce sera un petit peu un lien avec les mathématiques, ce qu'on appelle les surfaces minimales en mathématiques, et comment on peut étudier des surfaces minimales faites avec des films de savon. Et puis aussi des surfaces qui ne sont pas des surfaces minimales, ce qu'on appelle les surfaces à courbure constante. Donc on vous parlera un petit peu de tout ça et comment on peut faire des petites expériences chez soi autour de ça. Et donc, ah oui, on n'a pas pensé à quelque chose pour faire défiler les slides, mais comme on est deux, ça va être utile. Donc je te laisse la parole, Pierre.
Voilà, donc on va donc essayer de comprendre un petit peu les phénomènes d'interface. Et donc en fait, les interfaces apparaissent à plein niveaux différents. Et donc là, vous avez quelques exemples qui sont des exemples qui sont liés à des interfaces fluides. Donc souvent, c'est des films d'eau, des films minces. L'exemple le plus courant que vous connaissez probablement tous relativement bien, c'est la mousse de la bière. Mais il y a des mousses partout et dans d'autres domaines, même des domaines industriels aussi. Les mousses liquides qu'on solidifie, qui servent par exemple à faire de l'isolation pour certains, pour le bâtiment par exemple. Alors il y a de belles photos là avec des formes aussi de toits qui sont aussi des surfaces minimales. Donc on reviendra là-dessus la semaine prochaine. Et donc on va essayer de partir un peu de physique de base pour essayer d'expliquer un petit peu ce que ce sont ces interfaces d'un point de vue physique. Alors, la matière, classiquement, la matière est subdivisée en trois états que vous connaissez probablement tous, qui sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on rencontre le plus souvent. Et donc, un solide, avant tout, est déterminé par le fait que c'est quelque chose, qui est dense, compact, mais surtout qui a une forme, donc un cube, un glaçon, donc qui est de l'eau, mais sous forme solide, ben, ça a une forme et ça bouge pas tant que ça reste sous forme solide. Merci.
Le pointeur.
Alors, je vais essayer de voir si je peux pointer quelque chose avec ça. Ah oui, effectivement. Merci. Donc, et là, vous voyez donc l'exemple justement d'un de glaçons qui commencent à changer de phase. Et donc, vous savez tous que, évidemment, l'eau peut aussi être, et elle est le plus souvent sous forme liquide. Et donc, la grosse différence entre un liquide et un solide, c'est évidemment que le liquide n'a pas vraiment de forme à lui et il a tendance à épouser la forme d'un contenant. Donc, ici dans le verre, vous voyez que l'eau il va se mettre au fond, alors que le glaçon, lui, reste avec sa forme. Bon, évidemment, quand ça fond, ça diminue un peu en taille. Mais par contre, l'autre propriété du liquide, c'est d'être quand même quelque chose de dense. Et donc, en fait, la densité reste très proche de celle du solide. Et donc, on a même le cas un peu atypique de l'eau où la densité, en fait, du liquide est même plus grande que celle du solide. Donc, les glaçons flottent, c'est un peu une anomalie quand même, faut bien le dire, parce que dans la plupart des cas, on a quand même plutôt une petite diminution de la densité quand on passe de la phase solide à la phase liquide. Et enfin, le troisième état, c'est l'état gazeux, donc l'air qui nous entoure est heureusement pas tout à fait le vide, parce que sinon on aurait du mal à respirer, mais c'est quand même un état dans lequel les molécules ou les atomes sont à une distance élevée les uns par rapport aux autres. Et du coup, voyons voir la suite. Donc, quand on transpose ça à l'état microscopique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un solide, les atomes vont vraiment, ou les molécules vont être à une distance vraiment typiquement très proche de leur taille, et on va avoir un ordre très important à longue portée, donc de positionnement entre les différentes molécules ou atomes. Alors, il y a quand même de l'agitation dans les solides, dès qu'on n'est pas à température nulle. Et donc, mais les molécules bougent pas, elles restent autour de leur position d'équilibre, avec donc des petites agitations autour de ces positions d'équilibre. Dans un liquide, au contraire, la position relative entre deux atomes ou molécules, elle va pas rester fixée, et donc les molécules vont bouger les unes par rapport aux autres, et donc c'est ça qui va permettre au liquide d'épouser le contenant, de couler. Et c'est donc on a quand même, quand on regarde vraiment à l'échelle de ces atomes ou de ces molécules, on a quand même un ordre, une distance caractéristique entre deux molécules. Et donc on peut faire des mesures à ces échelles-là et on s'aperçoit qu'il y a des corrélations qui existent quand même. Mais par contre, les deux premiers voisins, ça change sans arrêt et ça s'échange rapidement. Enfin, quand on regarde le gaz, au contraire, c'est essentiellement du vide. On a quelques molécules qui sont en moyenne à une distance d qui est très grande par rapport à la taille de ces molécules. Donc, une approche simple de description de molécules. Bon, alors évidemment, dès qu'on a des molécules complexes, il va y avoir les formes, les angles entre les molécules qui vont intervenir aussi. Mais si on suppose, par exemple, des atomes, donc en gros, leur interaction va être déterminée simplement par la distance entre ces deux atomes. Et donc, on va pouvoir décrire un potentiel d'interaction entre ces deux atomes. Et typiquement, on va avoir un endroit spécifique qui va optimiser l'interaction entre deux molécules, entre deux atomes, à une certaine distance idéale. Bah, ça y est, j'arrive plus. Il y a déjà plus de... Ah. Ou alors, il faut que je... C'est pas enfin, donc Donc la taille des atomes, elle est caractérisée par le fait qu'il y a une répulsion importante à très courte portée, donc typiquement à zéro. Donc on a une énergie qui devient positive et donc on va jamais avoir envie de mettre les atomes plus près, sauf si on rajoute de la pression. Et donc la position d'équilibre va correspondre à la position où on arrive au minimum d'énergie. Alors évidemment, quand on travaille à température fixée, en fait, il n'y a pas que l'énergie qui compte, il y a aussi l'entropie. Donc on va avoir une espèce de bataille entre d'un côté l'énergie et de l'autre côté l'entropie. L'entropie, c'est ce qui domine dans les gaz, c'est ce qui va donc permettre. Donc il y aura beaucoup de désordre et donc l'entropie d'un gaz sera élevée. Et du coup, l'énergie libre sera principalement dominée par le terme en moins TS. Donc T c'est la température et S c'est l'entropie. Alors que pour un solide, ben, c'est essentiellement l'énergie qui va être élevée. Et du coup, pour les systèmes qui nous intéressent, nous, donc la matière molle, typiquement, ce qu'on va avoir, c'est des systèmes où à la fois l'énergie et l'entropie vont être importantes et du coup seront un peu comparables. Et c'est ça qui va donner des comportements intéressants pour ce genre de phénomène. Alors, du coup, un exemple dont je parlais déjà un petit peu avant, c'est donc l'exemple de l'eau qui existe principalement donc sous trois phases. Du coup, à basse température, l'eau est solide. Alors il y a des phases un peu bizarroïdes avec des désordres cristallins différents à très haute pression, mais essentiellement c'est l'eau ordinaire, donc le glaçon, qui est un peu moins dense que le liquide. Et évidemment, il y a la phase liquide, qui est celle à laquelle on est le plus habitué, et la phase gazeuse. Évidemment, il y a aussi dans l'air toujours une certaine fraction d'eau sous forme gazeuse qui est également présente. Donc, ici, vous voyez que en horizontal, on a mis les 100 kilopascals qui correspondent à la pression ordinaire, et donc ici, à notre pression atmosphérique, on a de l'eau qui va donc fondre à 0 degré, passer de l'état solide à l'état liquide, et bouillir à 100 degrés, donc passer de l'état liquide à l'état gazeux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette notion de point critique, mais en fait, si on va à des températures suffisamment grandes ou des pressions suffisamment élevées, on peut en fait passer continuellement de la phase gazeuse à la phase liquide. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le point critique. C'est quand on passe au-delà du point critique, en fait, on n'arrive plus vraiment, il n'y a plus vraiment de transition entre la phase liquide et la phase gazeuse. Mais ça, c'est pas vraiment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Hop. Du coup, ce qui nous intéresse, nous, c'est ces fameuses interfaces entre les différentes phases. Et donc, comment est-ce qu'on peut décrire ces interfaces? Donc, si on revient à l'idée d'une molécule qui est juste un tout petit cube, et donc de ce diagramme que j'avais déjà présenté avant, d'énergie en fonction de la distance entre deux de ces molécules, on a un optimum qu'on a appelé E0 ici, mais qui est le même que l'epsilon 0 d'avant. Et donc, si on schématise encore un petit peu plus, on peut simplement calculer très facilement l'énergie d'un cube qui aurait n atomes qui seraient tous rangés sur un réseau parfaitement régulier. On voit que la longueur de l'arête serait donc n puissance 1 tiers fois 0. Et du coup, on sait que le volume va être en L au cube, et donc On a simplement pour le volume n fois A0 cube, hein, si chaque petit atome a le même volume A0 cube. Et pour la surface, ben, c'est un D. De côté A, chaque côté fait L carré, et donc on obtient facilement l'aire totale, qui fait donc finalement N fois N, 6 fois N à la puissance de 2 tiers, et fois A0 au carré. Donc, et maintenant, il faudrait essayer d'estimer quelle est l'énergie de ce système-là. Et donc, pour ça, dans ce système-là, on considère que chaque atome a 6 voisins. Et du coup, on va avoir ce gain d'énergie moins E0 qui va être un gain pour chaque paire. Et du coup, pour le volume, on aura finalement un gain qui sera donc de 3n fois E0. Et par contre, au niveau des surfaces, vous voyez que il va à chaque fois manquer un voisin pour chacun des éléments, chacun des atomes qui sera sur une des faces du grand D. Et donc, en fait, il y aura du coup un déficit d'énergie. Donc l'énergie totale aura un terme qui sera proportionnel au volume et un autre terme qui sera proportionnel à la surface. Et du coup, on peut réécrire ce terme-là, donc l'énergie totale, comme moins 3 fois E0 divisé par A0 cube. Donc ça, c'est une énergie par unité de volume. Et vous avez un deuxième terme qui, lui, va être proportionnel à la surface, et donc qui est en E0 divisé par A0 au carré. Et du coup, ça sera évidemment une énergie par unité de surface. Donc, si on réécrit ça, on a donc une énergie de cohésion proportionnelle au volume et une correction proportionnelle à la surface. Et typiquement, ici, donc, on définit ainsi la tension de surface comme une énergie par unité de surface, donc, qui est au niveau microscopique, donc est vraiment l'énergie d'une paire divisée par la surface à zéro au carré. Donc, si on prend quelques exemples simples, donc d'éléments simples, on peut se rendre compte que typiquement, quand on regarde la température d'ébullition et si on regarde de manière conjointe l'évolution de la tension de surface, on s'aperçoit que effectivement, quand la température d'ébullition augmente, bien, on a aussi une augmentation de la tension de surface qui est typiquement liée à l'idée que cette énergie d'interaction epsilon 0 va augmenter dans les deux cas. Et donc, ça peut vraiment varier beaucoup. Vous voyez que déjà entre l'hydrogène liquide et l'azote liquide, il y a déjà des grandes différences. Mais évidemment, l'eau est un exemple particulier où la tension de surface est particulièrement importante pour un liquide simple. Et donc, on va beaucoup jouer avec l'eau dans le reste de cette présentation, parce que c'est un liquide facile à utiliser. Et on peut aussi très facilement modifier justement sa tension de surface qui est très élevée par défaut. Alors, si maintenant on s'intéresse à l'interface elle-même comme un système abstrait, en fait, on peut dire que cette tension de surface, c'est donc une énergie par unité de surface, mais et donc on a cet excès d'énergie qui est proportionnel à la surface, et du coup on a envie de réduire cette surface, et donc on va essayer de toujours obtenir des formes où il y a très peu de surface, et c'est typiquement ce qui va mener au fait que l'eau va avoir tendance à, quand on a une Donc, une coexistence entre l'eau en forme liquide et l'eau sous forme gazeuse dans l'atmosphère. On va essayer de minimiser donc la surface et ça, normalement, ça devrait faire une forme qui ressemble à une sphère. Et évidemment, vous savez tous que l'eau ne reste pas sous forme sphérique d'habitude. Enfin, mais ça, c'est dû au fait qu'il y a aussi la pesanteur qui est toujours qui s'applique toujours sur tous les corps et au niveau de la surface de la Terre. Et donc, très rapidement, l'énergie de pesanteur va devenir comparable à ces énergies de surface. Et donc, ça y est, je crois que on va... Qu'est-ce qui se passe? Ah, bon. Mince. Donc, qu'est-ce que je peux continuer à vous raconter pendant ce temps-là? Oui, je disais donc que l'eau, la goutte d'eau voudrait minimiser sa surface. Et donc, la forme d'équilibre, s'il n'y avait pas de pesanteur, ça serait une sphère. Et c'est les fameux petits dessins qu'on voit dans Tintin à marcher sur la Lune, où l'eau prend vraiment une forme sphérique, même à des grandes tailles, en absence de pesanteur. Alors, est-ce qu'on est revenu? Parce que... et donc, par contre, évidemment, si on est toujours soumis à la gravité, ben cette eau-là va finir par ne plus avoir une forme sphérique, au-delà d'une certaine taille caractéristique qu'on appelle la longueur capillaire. Ah, voilà. Merci. Et du coup, donc, si on essaye de regarder l'effet de la tension de surface sur un petit sous-système qui serait caractérisé par la partie jaune ici, on peut en fait, à chaque partie de la surface, on peut dire que sur un élément de longueur le long de ce bord de mon système jaune, il y a une petite force qui tire, qui essaye de réduire la surface. Et donc, tout au long de la ligne rouge, on va avoir des petits éléments de force qui vont tirer parallèlement à la surface, mais donc dans des directions différentes parce que ma surface est courbée. Et donc, tout ça va donner lieu à une force qui s'applique sur mon système. Et donc, ce genre de force, c'est typiquement ce qui permet à des insectes de flotter sur l'eau. Donc, c'est parce que ces insectes-là arrivent à déformer la surface de l'eau, parce qu'ils n'aiment pas du tout le contact. Ils sont des pieds qui n'ont pas envie de rentrer dans l'eau. Et donc, grâce à la déformation de la surface, ils vont avoir une force qui va leur permettre de rester à la surface de l'eau et de ne pas couler. Thierry, tu voulais... Hein? Ouais. Désolé.
Ah non, il n'y est pas, pardon. Ouais. Ben on passe peut-être à la première expérience. Non, mais c'est pas grave. Mais peut-être juste pour revenir rapidement sur cette histoire-là, ce qui est quelque chose qui est très important quand on essaie de réfléchir à ces systèmes-là. Parce que Pierre vous a dit, la surface tend à se minimiser, et donc sur le petit sous-système jaune, là, il y a une force qui va tendre à minimiser la surface. Et quand on regarde le dessin, on pourrait se dire, mais non, on est en train de l'augmenter plutôt, la surface. Alors, on augmente la surface jaune, mais on diminue la surface bleue. Et ce qui est important, c'est de se poser la question, qui est-ce qui agit sur qui? Donc si notre système, c'est le système jaune, c'est l'extérieur qui va agir dessus, et l'extérieur, c'est la surface bleue. Donc l'extérieur essaie de minimiser son interface, et donc elle tire sur le bord de la surface jaune. On fera une manip après, un petit peu après, qui illustre ça, mais avant ça, on voulait illustrer une première manière d'illustrer ces forces de tension de surface, c'est d'essayer de reproduire cette expérience d'insecte qui flotte sur l'eau avec un objet plus modèle. Alors on va switcher, on va voir si on y arrive. Et l'objet plus modèle qu'on utilise, c'est voilà, c'est un trombone. Donc on a un récipient avec que de l'eau et on vient déposer, on vous montrera après qu'on ne triche pas, que le trombone est bien plus dense que l'eau et donc coule. Et là, on le dépose. Pierre le dépose avec délicatesse, avec une fourchette, ça marche pas mal avec une fourchette, même une fourchette, celle-ci elle est en plastique, mais une fourchette métallique, ça marche bien. Et là, vous voyez qu'il flotte parce qu'il bouge, hein. Là, si, alors on le prouvera après, mais clairement, il devrait couler. Alors, notre objet, là, ça c'est un petit fil métallique entouré de plastique qui sert à faire des petits liens. C'est pareil, lui, on peut prouver après qu'il flotte. C'est pas très au point sur le trombone, c'est marrant, mais bon. Qu'on a oublié de dire aussi au début de la conférence, c'est si vous avez des questions en cours, vous n'hésitez vraiment pas à nous interrompre. Hein. Alors, une manière de. On peut faire un petit calcul d'ordre de grandeur après. Peut-être qu'avant ça, on peut montrer une manière de réduire cette force, finalement. Ce qui se passe ici, hein, si on revient sur le petit dessin d'avant. Alors ça, par contre, à chaque fois, il faut rebasculer. Non, il n'y a personne en visio, en fait, donc c'est pas tellement gênant. Ah, bah tiens, je te laisse le faire. Ouais, donc le trombone, ça serait la section du trombone, ça serait le petit rond orange là, qui est en haut à droite, et il déforme l'eau localement. Il est plutôt hydrophobe. La surface d'eau veut se réduire, donc elle tire sur ce système, c'est ce qui est symbolisé par les deux forces rouges là qui partent sur les côtés, et ça crée une résultante qui tire le trombone vers le haut. Alors comme l'eau est une surface, enfin, un liquide qui a une tension de surface assez élevée, c'est suffisant à le faire flotter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à spoiler un petit peu la suite. Après, on va vous parler de tensioactifs, qui sont des molécules qui viennent se mettre à l'interface. Donc essentiellement, c'est du produit vaisselle. Il faut revenir. On va passer notre temps à faire ça. Et donc, on va essayer de réduire cette force en réduisant l'énergie que coûte l'interface. Et donc, pour ça, on va venir juste toucher la surface de l'eau avec alors c'est un spaghetti avec un petit peu de produit vaisselle dessus. Alors, ça a commencé par les chasser. Ça, on rediscutera après pourquoi. Et puis, c'est un peu long, mais au bout d'un moment, si tout va bien, tout à l'heure, ça marchait bien en tout cas. Ça veut pas. Ah, c'est les jouets. Voilà. Il vient de couler là, le trombone. Il bouge plus. Il veut pas l'autre. Alors pendant que Pierre essaye de le faire, on peut faire un petit calcul d'ordre de grandeur. Le trombone, on l'a pesé tout à l'heure, il fait à peu près 0,5 grammes. Si vous voulez essayer de le faire à la maison, on n'a souvent pas de balances qui ont cette précision-là, mais dans les cuisines maintenant, on a souvent des balances qui sont précises au gramme, on va dire. Bah, vous pesez 20 trombones, et puis vous aurez le poids du trombone, à condition d'avoir 20 trombones identiques. Et donc 0,5 grammes. Et maintenant, si j'essaye de calculer la force qui s'exerce sur le trombone, donc. Pierre l'a dit, hein, c'est la tension de surface de l'eau fois la longueur du trombone. Et éventuellement un effet d'angle. Je vais le négliger, ce serait un facteur qui est de l'ordre de 1. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si jamais c'est raisonnable. C'est vraiment très qualitatif pour l'instant. Alors la longueur du trombone, enfin la tension de surface de l'eau, c'est, Pierre l'a dit, 70 millinewtons par mètre. Donc c'est 70, 10 moins 3 newtons. Ça y est, tu as fini par le faire couler. D'ailleurs, vous avez vu, donc ils coulent bien. Ça veut dire qu'ils sont plus denses que l'eau. Et puis, la longueur du trombone, c'était 10 cm. Donc, on va dire 10-1. Donc, l'ordre de grandeur de cette force de tension de surface, si je dis pas de bêtises, c'est 7 × 10⁻³ N. Et le poids, ici, du trombone, c'est donc 0,5 g divisé par 1000 pour avoir des kilogrammes, et fois l'accélération de la pesanteur sur Terre, qui est, on va dire, 10, hein, 9,81, mais on va prendre 10. Et donc, si je ne me suis pas trompé, on est à 5 × 10⁻³ N. Donc, on parle de forces qui sont de l'ordre du millinewton. Et typiquement, là, mes deux forces sont bien du même ordre de grandeur. Donc, c'est raisonnable pour un physicien. On se dit, c'est raisonnable de penser que ça, en tout cas, ça peut être le phénomène qui explique que ça flotte alors que ça devrait couler. D'accord ? Quand on rajoute du tensioactif, on va en discuter un petit peu plus après, puis on va vous montrer comment éventuellement mesurer cette tension de surface. La tension de surface, elle est divisée à peu près par 3. Par 2 ou 3, et on tombe à 25-30. Donc on va diviser cette force par 2 ou 3, et ça suffit à passer sous le poids, et donc le trombone va couler. Alors moi j'ai toujours entendu dire, mais je sais pas si c'est vrai, que les grands-mères avaient tendance à mettre des récipients comme ça avec de l'eau et du produit vaisselle en surface pour se débarrasser des moustiques. Alors je sais pas si ça marche vraiment pour les moustiques, parce que je suis pas sûr que les moustiques boivent en se posant. Mais en gros l'idée c'est que l'insecte vient, veut se poser, et il flotte pas. Je suis pas sûr que ça soit tellement efficace, mais bon. Voilà, donc c'est vraiment une expérience très qualitative, mais vous voyez, ça permet d'expliquer pourquoi ces petits objets flottent à la surface de l'eau. Alors, je vais revenir ici. Je vais rebasculer ça. Ouais, comme ça, pendant ce temps, je peux en placer une. C'est rigolo parce qu'on s'était fait un truc très... avec des petites séquences chacun, mais Pierre, il a complètement oublié, il est parti. Waouh. Alors le produit que Pierre a déposé à la surface là avec le spaghetti, c'était du produit vaisselle. On a pris l'exemple du PEC citron. Si vous voulez faire des jolies manips avec des films de savon et avec des bulles, il y a un produit qui est le produit magique. C'est la marque Ferry. Alors je suis désolé de faire de la pub. Apparemment c'est dur à trouver en France, mais on le trouve en Allemagne, à Kiel, dans les grandes surfaces, on trouve Ferry. Donc c'est Ferry, F-A-I-R-Y. De toute façon, s'il y en a qui sont intéressés. Si on veut vraiment faire des bulles très grandes et des films de savon stables très longtemps, il y a un mélange un peu magique. Si ça vous intéresse, on peut vous le distribuer. Alors c'est quoi ce produit vaisselle? Quand on va regarder la composition, on voit qu'il y a ce qu'on appelle des agents de surface anioniques et des agents de surface non anioniques d'ailleurs. Les anioniques sont particulièrement importants ici. Il y a une typo, c'est celui qui est le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle le sodium chloride sulfate là. En gros, il ressemble à ça. Il a une longue chaîne de carbone, vous voyez, en jaune, et puis une tête qui va s'ioniser quand on la met dans l'eau et qui est très polaire et qui donc va bien aimer être dans l'eau. Donc il y a une partie qui aime bien être dans l'eau et une partie qui préfère, on va dire, être dans l'huile. Et donc quand on dépose ces molécules, voilà, celle-ci aime l'eau. Ça, c'est des dessins de notre collègue Wiebke Drenken qui dessine les tensioactifs comme ça, avec la tête qui aime bien l'eau, pardon, et la partie hydrophobe qui va pas aimer l'eau, mais qui va essentiellement être souvent lipophile. Et quand on essaye de mettre ces molécules, que faisait Pierre, hein, il en faut pas, on va faire un calcul d'ordre de grandeur, on en utilise toujours beaucoup trop. Quand on fait la vaisselle, en général, on en utilise toujours beaucoup trop. Mais voilà, si on essaie de les mettre dans l'eau, bah comme la partie marron qui symbolise la chaîne aime pas tellement être dans l'eau et que la partie bleue qui symbolise la tête, elle aime être dans l'eau, elles vont avoir tendance à faire ça. D'accord? À venir s'étaler à la surface de l'eau. C'est pour ça qu'on parle de surfactant, de tensioactif, ça vient agir sur les interfaces. Et en faisant ça, ça réduit le coût énergétique de l'interface. Alors, c'est ce que je vous disais, là, le gamma, la tension de surface, l'énergie de la surface va être divisée par 2 ou 3. Alors, on va voir que, on peut le voir, là, que ça s'étale. Ça crée aussi, alors on est désolé, on a dû changer d'ordinateur et le transfert s'est mal passé. Ça peut créer aussi ce genre de petite structure. C'est une autre manière de limiter les interactions entre les chaînes et l'eau et d'optimiser les interactions entre les têtes et l'eau. C'est ces sortes de petites boules là. Alors c'est projeté dans le plan, hein, mais il faut imaginer une petite boule. On appelle ça une micelle. Et ça va faire une structure assez grosse. Si le pointeur laser avait marché, on pourrait poursuivre l'expérience qu'on va faire là il y a un moyen de se rendre compte qu'elles apparaissent, ces structures dans l'eau. Donc du coup, on va essayer de vous montrer qu'en effet, ça forme bien une couche comme ça. On parle d'une monocouche de tensioactif. Alors, il faut voir, hein, que l'épaisseur de cette couche, c'est de l'ordre du nanomètre. Donc 2 nanomètres en général, donc 10⁻⁹ mètres. Il est hors de question de la voir comme ça. On sait les étudier, hein, avec des techniques de diffusion de rayonnement, par exemple, de rayonnement synchrotron, de rayonnement de neutrons. Ça a été beaucoup étudié dans les 30-40 dernières années, je dirais. Les micelles, c'est aussi beaucoup étudié. Mais il y a un moyen indirect un petit peu de le voir. Et donc, je vais rebasculer sur la caméra. Il se mouille, en fait. Il se mouille et du coup... Alors, s'il se mouille, ça veut dire qu'il va se couvrir d'un film d'eau. Et vous avez vu que ce qui était important quand même, c'était... Je ne sais pas si vous voyez là, où il faut, on peut rééclairer peut-être. Mais si je refais... si je refais le petit dessin qu'on montrait, donc ça serait la section du trombone. Et ce qui est important, c'est qu'il vient déformer la surface comme ça. Et pour qu'il déforme la surface comme ça, il faut qu'il n'aime pas être couvert par l'eau. Si vous le faites avec un trombone métallique propre, ça ne marchera pas, parce que l'angle va plutôt venir se mettre comme ça, en fait. C'est-à-dire que l'eau va avoir tendance à s'étaler sur le solide. C'est ce qu'on appelle, ici c'est une surface mouillante, et ici c'est une surface non mouillante. Et si le trombone est mouillé, il devient mouillant en quelque sorte, parce que c'est déjà en soi une surface d'eau. D'accord ? Et de toute façon, si on le met directement sous l'interface, ben là, il n'y a plus de force de tension de surface. D'accord ? Ouais, exactement. Changer la longueur, ça ne change rien, parce qu'on change la masse proportionnellement à la longueur, mais on change la force aussi. Donc on pourrait le faire a priori avec pour le même matériau, un fil très très long. Au bout d'un moment, on a des problèmes parce que sûrement il va pas être très, il va peut-être un peu déformer, il va un peu trop déformer la surface.
Oui, c'est déjà un petit peu le cas pour le film noir.
C'est déjà
pas parfaitement plan et ça pose un petit peu des problèmes.
Mais en effet, si jamais on veut augmenter la flottabilité, on peut diminuer le diamètre, ouais. Parce qu'on va changer la masse sans changer la force de tension de surface.
Et voilà, donc là, pour vous montrer vraiment que ces molécules ont tendance à s'étaler à la surface de l'eau, on va commencer par une manip très standard qui utilise du poivre. Donc, je vais étaler un petit peu de poivre.
D'accord, c'est vrai.
Du Crous de Cronenbourg, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, et donc là, à nouveau... On va essayer de prendre très très peu de...
Je vais en mettre un peu plus.
Un peu plus. Donc, on va prendre...
En fait, il suffit de toucher... voilà, là, t'en as là. Il suffit de toucher un tout petit peu le liquide.
Donc, vous voyez que l'effet est quand même... assez catastrophique, dans le sens où c'est vraiment très rapide. En fait, on a vraiment ces molécules tensioactives qui se déposent à la surface de l'eau et qui vont faire une espèce de front. On a une vague, mais sur une épaisseur tellement fine qu'on voit rien. Mais elle emporte quand même c'est l'essentiel de ces grains de poivre et elle va les expulser sur les côtés. Et donc là, maintenant, au milieu, on a plus de l'eau pure, mais on a de l'eau avec cette fameuse monocouche de tension actif qui a donc une tension de surface plus faible. Et
si on voit quelque chose là, mais il n'y en a pas assez, je pense, encore.
Si vous voulez.
Pour un rajout. Alors, le poivre, ça flotte exactement pour la même raison que le trombone. Alors, là, au bout d'un moment, il va couler. Si on attend suffisamment longtemps, il va finir par couler, ouais. Ça se voit bien quand on commence à saturer l'interface.
Il y a quelques grains qui ont déjà coulé dans les, ouais. dans certains.
Mais en effet, oui,
c'est la plupart sont encore en train de flotter, mais il y en a quelques-uns qui ont commencé à couler par là.
Le poivre flotte parce que, à nouveau, pas à cause de l'effet de tension de surface. Ouais. Et donc, je sais pas, là, si tu en as mis beaucoup, ce qu'on peut voir avec un pointeur laser, mais celui-ci, il a une durée de vie là, c'est que. Du mal. Hein. Ouais, non, on voit pas grand-chose. Il y en a pas assez encore et puis il va pas tenir. Mais quand on fait passer un pointeur laser dans l'eau, on voit pas le trajet du faisceau lumineux en fait, parce que la lumière est pas diffusée par les molécules et donc on le regarde perpendiculairement. Il y a pas de lumière qui nous revient. S'il y a ces petites micelles qui se forment, elles sont suffisamment grosses pour diffuser la lumière et on commence à voir apparaître, à voir se matérialiser le faisceau lumineux parce que la lumière est diffusée aussi dans notre direction. Mais là c'est pas très. On n'avait pas prévu de le montrer, on savait pas qu'on aurait un pointeur. Mais... Ok, donc je sais plus du tout ce qu'on avait comme ordre, mais c'est pas grave. Tu fais ça? Alors je vous disais, oui, on utilise toujours beaucoup trop de produits vaisselle. Un petit calcul d'ordre de grandeur qu'on peut faire, je vais passer vite parce que le temps passe vite et on voudrait vous montrer encore quelques manips, dont une quantitative. Mais à partir de la masse molaire de ces molécules, on peut calculer, c'est quelque chose qu'avait fait, si je dis pas de bêtises, c'est Benjamin Franklin. Le premier, il aurait presque pu, s'il était allé au bout, estimer la taille d'une molécule à l'époque. Mais si vous vous dites que vous calculez le nombre de molécules qu'il y a dans une cuillère à soupe de produits vaisselle, et puis vous essayez de regarder quelle va être la surface couverte par cette cuillère à soupe, vous allez couvrir en gros 3000 m². Donc on avait un dixième de l'orangerie, on va dire. Une belle surface, quoi, une belle petite mare avec juste une cuillère à soupe. Essentiellement parce que les molécules forment une monocouche d'épaisseur moléculaire et donc elles ont un pouvoir couvrant qui est extrêmement grand. Voilà. Alors maintenant, si on va un petit peu plus loin, il y a une autre structure que peuvent former ces systèmes maintenant, c'est... On va arriver progressivement vers les films de savon, et c'est venir se mettre à l'interface comme ça d'un film d'eau, d'accord, et venir le stabiliser. Alors, souvent on entend dire que ça stabilise le film d'eau. Un film de savon, c'est essentiellement un film d'eau dans l'air, un film d'eau assez fin. Et on sait bien que sans savon, c'est dur de faire des mousses. Hein. Sans produit tensioactif, c'est dur de faire des mousses. Si vous secouez beaucoup de l'eau, si vous mettez beaucoup d'agitation mécanique, vous allez créer des bulles. Mais elles ont un temps de vie qui est extrêmement court. Souvent, on entend, voire on lit que ça va être stabilisé parce que l'interface coûte moins d'énergie. En fait, c'est pas vraiment la bonne raison. C'est vrai que l'interface coûte moins d'énergie quand il y a des molécules tensioactives, mais c'est essentiellement ce qui se passe, c'est que je vous ai dit que ces molécules étaient chargées et que comme elles sont chargées, alors c'est un transport un peu compliqué, on l'a repris de quelque chose, mais on va pas... trop détaillé, mais vous voyez que si le film devient trop fin, les molécules tensioactives qui ont des têtes chargées, elles vont se sentir d'un point de vue électrostatique, elles vont se repousser, et ça c'est vraiment l'effet dominant qui stabilise ces films de savon. C'est pour ça qu'ils vont pouvoir rester stables finalement aussi longtemps. Alors après il y a plein de trucs pour essayer de les stabiliser encore plus longtemps, en particulier les mélanges là dont on vous a parlé. Voilà, donc maintenant on va essentiellement parler de films de savon. Et donc la première expérience qu'on voulait essayer de faire, c'est un peu celle qu'on avait schématisée tout à l'heure avec le petit contour jaune. Donc on va voir si ça va marcher. Alors, pour faire des grosses bulles, en général, Je vais peut-être essayer de le faire là, en dehors. Je ne vais pas arriver à faire des bulles parce que justement, on n'a pas le mélange magique, mais vous pouvez faire ça chez vous, c'est assez simple. C'est un bout de tuyau tube plastique, hein, un petit tuyau plastique souple qu'on a refermé sur lui-même avec une petite cheville ici ou un petit embout. Et puis après, on l'entoure de gaz pour les pansements. C'est quelque chose qui va pouvoir s'humidifier pas mal. Et donc après, alors là, maintenant, on a mis de l'eau et du produit vaisselle. Et avec ça, au début, ça va peut-être pas trop marcher parce qu'il faut que le truc se stabilise. Mais vous voyez qu'on peut finir par, ça va venir. Ah, il veut pas. Hein. Voilà, là j'ai un joli film de savon et puis je pourrais faire. Alors avec ce mélange-là, c'est difficile de stabiliser des grosses bulles, mais avec le mélange magique là dont on vous parle, on peut faire. On a un collègue qui est un artiste bulleur qui fait des bulles qui peut faire 1 mètre de diamètre voire plus, qui se déforment, qui sont très jolies. Et donc par contre, on va le refaire là-bas, celui-ci, je pense. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un film ici. On va rebasculer là. Là. Et puis, donc, voilà. Là, j'ai un film. Je ne sais pas si on le voit bien. De temps en temps, il y a des petits reflets. Et Pierre vient mettre un petit anneau fait avec un fil de pêche de nylon, là. Alors, il va falloir que tout s'imbibe un peu. Donc on essaie de reproduire la situation de tout à l'heure là, c'est-à-dire que le film qui est tendu sur l'anneau ici, c'est la surface bleue, et puis on essaie d'y mettre un petit anneau à l'intérieur. C'est pour l'instant. Alors l'autre truc aussi que des fois on. Là, ouais, je pense que là on le voit bien le film. Ce qui se passe souvent, c'est quand on fait ces manips, on n'a pas les éclairages comme ça et la température est un peu différente. Ah ! Tu me dis quand t'es prêt. Tu me dis quand t'es prêt. Voilà. Parce qu'après, il se draine vite quand même. Ah, bon. C'est dommage parce que c'est une de celles qui avait le mieux marché. C'est toujours.
C'est super beau à voir.
Ah ! Sinon, on pourra peut-être laisser s'imbiber un peu et le refaire tout à l'heure. Ah, zut, bon. Allez, on tente une dernière fois, sinon on fera l'autre et puis on peut la raconter. L'idée, si on y arrive, j'aimerais mieux pas vendre la mèche, mais c'est vrai qu'il est vachement déformé maintenant. C'est vraiment un peu stable. L'idée, c'était que ce qu'on voulait faire, donc on voudrait insérer l'anneau dans le film de savon. Ah, on y est presque, là. Il s'est tordu, en fait.
En fait, on peut voir l'effet de la tension de surface sur l'anneau lui-même, enfin sur cette petite boucle-là. Parce que quand il y a un film... Alors, est-ce que vous voyez le film? Je ne sais pas trop.
C'est pas facile. Hein.
Et en fait, au moment où il éclate, vous voyez qu'il se rouvre de nouveau. Donc, en fait, il subit la tension de surface du film, et c'est ça qui rapproche les deux brins quand il y a un film entre les deux. Et dès que le film se rompt, il reprend sa forme d'équilibre. Tu peux peut-être le percer là pour montrer à quoi il ressemble quand il n'y a plus. Ah ben voilà, ici. Ouais.
C'est percé.
Voilà, donc vous voyez que la forme d'équilibre sans le film, c'est une forme où les deux fils sont assez écartés. Et le fait de rajouter le film le rend beaucoup plus fermé. Et donc la surface qu'il y a entre les deux fils est du coup beaucoup plus. C'est difficile à crever. Voilà.
Et donc là, on voit. Je ne sais pas si là vous l'avez vu, il s'est ouvert. En fait, on voulait faire l'inverse. On met l'anneau. Peut-être je peux faire un petit dessin. Donc l'expérience qu'on souhaitait faire. On a notre grand anneau sur lequel il y a le film de savon. Et puis on vient y mettre cette spire là de nylon qui est un peu déformée. Et donc on a un film de savon à l'extérieur, un film de savon à l'intérieur. Et maintenant on vient crever ce film-là. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il devient un cercle, exactement. Il devient un cercle parce que le film de savon qui est sur les côtés, la force de tension de surface va tirer. Ça a marché? Ah. Attends, je vais prendre une pâte carrée. C'est celle qui crève le mieux. Pardon, excuse-moi, ça va? Tu crèves? Moi, il n'y a rien là. Si, voilà. Ouais, mais on est mal centré, en fait. Ouais. En fait, le plus simple, ça serait presque que vous veniez le voir. On fait voir, là, tu es. Là, tu es pas mal. Et là, je viens crever. Sais pas. Vous l'avez vu? C'est. Non? Bah, toi, tu l'as. Donc, là, t'en as un, là?
Non, il n'y en a
Non,
plus.
il n'y en a plus, là. Là, il est très rond, là. On voyait qu'il n'y avait plus de film de savon au centre. Là, il y a un film de savon au centre. Là, je crève. Et on voit que. Alors, le fil de nylon est un peu rigide, mais. Alors, je regarde l'heure. Oui, ça va. Ça va. Ça va aller. Non, je ne sais pas ce que je voulais faire. Voilà, je reviens sur ça. Je reviens sur ça. Voilà. Alors, on va arriver sur la dernière expérience qu'on voulait faire. Et c'est celle. Alors, on va commencer qualitatif et puis on va vous montrer qu'on peut faire des choses assez quantitatives avec. C'est toujours pareil, c'est toujours l'idée de mettre en évidence cette force de tension de surface. Et donc là, bah, finalement, je vais rebasculer. Donc j'ai mis cadre avec des tubes plastiques type Lego, type paille, type. En gros, il faut des petits tubes plastiques. On va vous le montrer là-dessus, mais nous, on s'est amusé avec des spaghettis, ça marche très bien. On n'avait jamais pensé avant, et l'autre jour, on s'est dit on va tester ça, et en fait, c'est ce qui marche presque le mieux. Voilà à quoi ressemble l'expérience. Donc on a un cadre fait avec ces petits tubes de plastique. On va tendre un film de savon dessus, et puis on met un spaghetti. Donc je vais peut-être rebasculer, je vais pas montrer le film parce que on va montrer la vraie manip. T'as une paille carrée ici. Hein. Et puis on va venir crever le film d'un côté. Ah zut. Donc là, il y a un film de chaque côté, et ça a l'air d'être bon. Et on va venir crever d'un côté. Et là, c'est vraiment spectaculaire, ouais. C'est violent. Voilà. Alors, on peut jouer avec les numéros des spaghettis. Pardon. Voilà, il faut qu'ils. S'ils sont trop fins, ça va trop vite. Parce que l'idée maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de filmer ça. Alors on l'a fait avant. Et puis d'essayer de voir si jamais on peut écrire une loi de physique pour comprendre le mouvement accéléré, hein, et clairement un mouvement accéléré de ce spaghetti. Donc, alors on a un collègue au labo qui fait le rouler des spaghettis, ils vont beaucoup moins vite avec sa technique. Mais elle est assez astucieuse quand même. Mais peut-être le pousser un tout petit peu, Pierre, le cadre, parce qu'il est un petit peu en bas. Ouais. Voilà. Et donc c'est toujours la même idée. C'est peut-être rééclairer.
Alors, on va réessayer avec quelque chose d'un peu plus lourd, voir la différence.
C'est qu'on a le cadre, on a le spaghetti qui est ici, il y a un film de savon de chaque côté, Le film de savon a la même, il a la même tension de surface partout. Donc en fait, les deux côtés du film de savon, ce côté là tire sur le spaghetti avec une force par unité de longueur, qui est la tension de surface, qui est comme ça. Mais l'autre film, même si sa surface est plus petite, il a la même tension de surface. Et donc il tire de la même manière et le spaghetti bouge pas. Et puis quand Pierre vient crever d'un côté ou de l'autre, on aurait pu le faire d'ailleurs, si on crève du grand côté, c'est exactement pareil, sauf que le déplacement se fait sur une distance plus courte, on voit moins. Mais on supprime cette force. Et donc, a priori, ce qu'on a envie d'essayer de montrer, hein, à nouveau en faisant de la physique, donc en allant vérifier que ça peut bien être ça, c'est que c'est bien la force de tension de surface qui accélère le spaghetti.
Donc,
il y a une question. Alors verticalement, normalement, on pourrait le faire monter. Il faut que ça soit suffisant pour lutter contre son poids.
Donc là, on va tester pour le plat.
C'est pas des spaghettis.
C'est beaucoup plus difficile. Et par contre, il faut arriver à rester bien équilibré. Donc, mais vous voyez que vous avez pu voir quand même que sur le début, que c'est beaucoup beaucoup plus lent.
C'est des tagliatelles assez. Enfin, 5 mm de large et tagliatelle droit. Ouais. Tu prends un bain. C'est plus centré, hein, par contre. Ah oui, non, c'est vrai. Ouais. Prends le carré pour crever, ça marche mieux. Bon, je vais. Oups. Ah, il était joli celui-ci. Alors il frotte beaucoup plus sur les pailles en particulier. Et donc là, la force est un peu limite. Il est plus lourd aussi. Et donc la force est un petit peu limite pour le faire se déplacer, mais elle y arrive quand même. Donc on arrive avec ses forces, hein, à déplacer des objets de l'ordre. Bah, typiquement, on l'a vu là, faire flotter des objets de l'ordre du gramme ou de la fraction de gramme et déplacer des objets de l'ordre du gramme. À nouveau, ce que vous disiez tout à l'heure. Si on le faisait sur un cadre avec un plus large, avec un spaghetti plus long, on ne changerait pas grand-chose parce qu'on changerait la masse de la même manière qu'on changerait la force de tension de surface. Donc c'est vraiment le diamètre.
On pourrait éventuellement réduire un peu la friction, enfin, ouais. L'importance relative de la friction.
C'est vrai.
Pas sûr.
Alors du coup, ce qu'on a essayé de faire avec ça, et on va terminer là-dessus, je vais vous... On a réussi à en faire une... Donc là, il y a une vidéo normalement, j'espère qu'elle va
marcher. Donc on a réussi à enregistrer en utilisant juste un smartphone, en mettant en mode ralenti pour avoir le plus d'images possible, parce que c'est quand même quelque chose qui se passe très rapidement. Donc on arrive à avoir de l'ordre de 240 images par seconde dans ce mode vidéo-là. Donc on fait des vidéos qui durent à peine 2-3 secondes, mais sur quelques images, on voit effectivement le déplacement du spaghetti de la gauche vers la droite. Et vous allez voir que c'est vraiment une toute petite portion même de cette vidéo-là.
Je sais pas.
Parce qu'il se passe rien pendant un moment.
Je comprends pas pourquoi il n'arrive pas.
Il marche plus là.
Il me semblait qu'il l'a lisé tout à l'heure.
Ouais, ça avait l'air de marcher avant. Ah, il veut pas. Peut-être par.
Alors, bon, on peut vous la montrer après, je suis désolé. Ce que je peux faire, c'est la faire défiler un peu comme ça. De toute façon, au début, il ne se passe rien parce que... Voilà,
il faut le temps d'arriver à la crever.
Là, je ne sais pas si vous
le voyez. Ça ne marche pas toujours au premier coup.
Pardon, on va rééteindre le tableau.
Ah ouais.
Décidément, on jongle beaucoup. On voit le ici, là, vous ne voyez pas la souris, mais on voit le spaghetti qui va venir crever le film. On crève aussi avec un spaghetti.
Mais en fait, je crois qu'il y a un double essai. Ouais. Voilà, c'est l'effet confluent. Et là, on voit qu'il devient flou tellement il va vite, en fait. Et donc, même à 240 images par seconde, en fait, il y a à peine une dizaine d'images sur lesquelles on voit le déplacement.
Alors, si on veut essayer de faire, donc d'essayer de vérifier quand même que ça peut bien être cette force de tension de surface qui procure ce mouvement qui est quand même assez rapide, il y a une première estimation qu'on peut faire, mais on va peut-être pas s'attarder dessus parce que je vois qu'il reste plus beaucoup de temps,
ouais,
surtout si on veut des questions. Mais c'est juste estimer Et on a fait les mesures, on a pesé les spaghettis, on a pesé plein avec une balance de cuisine, donc c'est faisable. Ils font typiquement toujours de l'ordre d'une fraction de gramme. On les a mesurés pour avoir leur distance, leur longueur, la force sur laquelle on tire. Et on a calculé la durée du mouvement et le déplacement. Donc en gros, le spaghetti a bougé de 7 cm en 0,15 secondes. Et ça, on a regardé la première image et la dernière image du film. Donc ça, on peut le faire vraiment avec un téléphone portable. Et ce qu'on peut se dire, c'est bah, il y a eu conservation de l'énergie. Donc la variation d'énergie cinétique du spaghetti, qui en gros au début c'était zéro puisqu'il était immobile et à la fin c'est un demi de mv carré, c'est égal au travail de la force de tension de surface, qui est, comme elle est constante, c'est simplement la tension de surface fois la longueur fois le déplacement. Si on fait ce calcul d'ordre de grandeur-là, on a trouvé tout à l'heure que la tension de surface c'était de l'ordre de 3 millinewtons par mètre. Ce qui n'est pas très bon, c'est un facteur 10 en fait trop faible. Mais c'est très grossier. Si on veut aller plus loin, alors d'abord,
Donc.
ici j'ai une petite erreur, c'est que je devrais mettre deux gammas, parce qu'il y a deux interfaces qui tirent. Il y a un film de. Le film de savon, c'est deux interfaces en fait. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, il y a deux surfaces de molécules tensioactives. Pour aller plus loin, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est amusé à relever la position du spaghetti au cours du temps. Donc on a tracé ce que, en physique, on appelle la loi horaire du mouvement, c'est-à-dire en verticalement, c'est la position du spaghetti au cours, et en bas, c'est le temps. Vous voyez, c'est court, hein, ça dure 0,2 secondes le mouvement. Et on a bougé, ce que je vous disais tout à l'heure, à peu près 7-8 cm. Mais là, on a une loi physique et on peut essayer de l'analyser. On a même mis des barres d'erreur, on a fait les choses proprement. Et on peut essayer de l'analyser en utilisant la loi de Newton, qui nous dit que la masse fois l'accélération, ça doit être la somme des forces. Alors, la première chose naïve qu'on peut dire, c'est il y a que la force de tension de surface qui est constante. J'essaye de résoudre cette équation, c'est assez simple. On a ce qu'on appelle un mouvement à accélération constante, donc un peu comme la chute libre, ça doit donner une parabole. Et puis on essaye de voir si ça décrit bien la trajectoire. Alors,
Et on voit que c'est pas terrible, terrible, parce que pour bien arriver au dernier point, ben les premiers sont pas bien traités. Et du coup, bon, on obtient un résultat, mais on voit quand même que c'est pas très satisfaisant.
c'est pas cata, mais enfin,
C'est quand même mieux que la première estimation. On
c'est
est
mieux que
passé de
les.
3 à 14, mais
Ouais.
on n'est pas encore tout à fait dans les bonnes valeurs.
Et là, quand on est physicien, on se dit qu'on est sur la bonne piste, mais qu'il manque des choses, typiquement. Alors, qu'est-ce qui peut manquer? On peut avoir l'intuition là qu'on a l'impression qu'on tend vers une trajectoire, quelque chose qui est linéaire ici. Et si c'est linéaire en temps, ça veut dire qu'on a atteint une vitesse limite. Alors, on a une force à accélération, une force constante qui donc accélère de manière constante, et donc on devrait avoir une vitesse qui augmente, pas indéfiniment, mais parce qu'à un moment donné, le spaghetti va être relativiste, mais donc qui devrait continuer à augmenter. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le ralentit. Et donc clairement, il faut prendre en compte de la dissipation. On pourrait penser à du frottement solide sur les bords. C'est peut-être ça, mais lubrifié probablement. L'idée la plus naturelle, c'est de se dire qu'il faut mettre une force de friction qui est proportionnelle à la vitesse. Et elle est compliquée, et honnêtement, on n'a pas forcément la réponse, et ça nous a même donné envie, probablement, en faisant ces petites manips-là, de proposer un stage à des étudiants de master. Parce qu'on ne sait pas si jamais la perte d'énergie, elle se fait dans le film, parce qu'il faut imaginer qu'on a un film d'eau, là, très fin, qui est d'un coup comprimé et qui change de surface, et donc il y a des écoulements dedans, et probablement qu'il y a de la dissipation. Par contre, vous voyez que quand on met une force de friction comme ça, ce qui est très chouette, c'est qu'on décrit très bien les points. C'est la
Ça, c'est
courbe
la
rouge.
nouvelle courbe rouge.
Et on a une valeur surtout de la tension de surface, là, 32 millinewtons par mètre, qui est pratiquement égale. En général, on attend plutôt 27, 28 pour ce genre de tensioactif. Alors, c'est une très bonne question. Et honnêtement,
C'est délicat parce que l'essentiel du volume de liquide est au niveau des bords, là, en fait. Et donc, c'est... pas si évident d'être sûr que.
Ouais, si on fait un dessin, alors on a passé un peu ça sous silence, mais un film de savon, ça a une épaisseur caractéristique. On voit des franges d'irisation, donc ça veut dire que ça a une épaisseur qui est comparable à la longueur d'onde de la lumière, donc quelques centaines de nanomètres. On peut vous montrer un joli film à la fin, peut-être pour conclure. Mais donc, j'ai un film de savon qui fait 100 nanomètres. Et il vient se raccorder sur les bords, et en particulier au niveau du spaghetti, sur un spaghetti qui fait plutôt de l'ordre du millimètre, typiquement. Donc il faut imaginer un truc énorme ici. Et
Oui,
donc en fait,
même beaucoup plus
là, il
grand
y
que
a ce
ça
qu'on
encore.
appelle un ménisque sur les bords, qui ne s'étend pas très long, hein, il s'étend sur 2-3 millimètres, typiquement la taille des bords, mais où où on passe de, en gros, 100 nanomètres à 1 millimètre. Donc mon dessin n'est pas du tout à l'échelle, je devrais vraiment dessiner. Et donc l'essentiel de l'eau est là. Et donc quand le spaghetti avance et que le film, sa taille diminue, c'est pas du tout évident de savoir ce qui se passe en fait. C'est ça, ouais, exactement. Dans ces zones-là qu'on appelle des ménisques, typiquement. Voilà. Et dans les mousses, c'est ce qu'on appelle les bords de plateau, en fait, ces zones-là. Qui connecte les différents films. Voilà, je crois qu'on a à peu près raconté tout ce qu'on voulait. Et l'idée de la semaine prochaine, alors, on peut peut-être. Il y a la vidéo, je sais pas si on veut. Voilà, l'idée de la semaine prochaine, c'est de montrer maintenant les formes qu'adoptent les films de savon quand on les fait s'appuyer sur des cadres, quand on contrôle ou pas le volume qu'il y a à l'intérieur, typiquement. Donc, on parlera un petit peu de tout ça et on vous montrera, on espère aussi des expériences qu'on peut faire à la maison. On espère qu'elles marcheront toutes. Bon, il y en a quand même une partie qui a marché. Et peut-être, mais en coupant le son, je peux mettre le film. Voilà. Juste peut-être pendant que vous avez des questions, je peux. Ah, mais non, mais le film marche pas à nouveau. Je sais pas pourquoi il marche pas. Pourtant, il marchait tout à l'heure. Bon, bah on avait un joli film aussi, on pourra. La prochaine fois, je pense que je prendrai mon ordinateur, mais. Comment? Ah, tu crois?
Ouais, peut-être. Et tu peux réessayer de le lancer là, voir si ça marche.
Je sais pas si vous avez d'autres questions,
Non,
peut-être.
malheureusement pas.
Oui, arrivé, madame.
Alors, voilà. Ici, on a pris la moitié de la bouteille pour remplir un bidon de 5 litres d'eau. Mais on peut en mettre beaucoup moins, hein. Comme dit, on en met toujours beaucoup trop, comme disait Thierry.
Niveau
Ça dépend vraiment ce qu'on veut faire. Là,
ben, il en faut pas forcément, c'est pas plus on en met, plus ça marche, quoi. Il y a un moment donné où ça
ouais.
sature. Ben là, vous voyez, ça doit faire, je sais pas, un dixième, c'est même un peu moins, non?
Non, c'est moins que ça, c'est
C'est
plutôt
moins que
un
ça.
tième, ouais. Je crois que
Ouais.
c'était un facteur 25, ouais. Faut diluer 25
Ouais,
fois.
25 fois, c'est.
Mais
Si vous voulez,
bon,
on vous
c'est.
laisse ça, hein, si ça
Ouais.
vous intéresse. Bon. On pourra le mettre en ligne, Stéphane, Thierry? Sais pas
Ouais.
pourquoi je t'appelle
Ok.
Stéphane.
Il y avait d'autres
Il y avait
questions?
une autre question là-bas, ouais.
Oui, s'il vous plaît. Ah, donc au moment où on crée un trou, bah évidemment le film devient complètement instable. Et donc là aussi c'est tout aussi catastrophique ce qui se passe de ce côté-là, quoi. C'est très très rapide et on a du mal à voir exactement, mais il se forme souvent des petites gouttelettes de nouveau et une espèce de. Alors quand on regarde des bulles en particulier qui éclatent. Au ralenti, on voit bien que ça forme une espèce de petit nuage de gouttelettes, finalement. Mais c'est très dépendant des conditions initiales, quoi. Je crois que c'est assez difficile de bien.
Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a très très peu de matière. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas grand-chose en fait. Il y a des petites, toutes petites gouttelettes, probablement stabilisées un peu par les tensioactifs, qui vont tomber, mais la quantité de matière, elle est vraiment très faible. C'est un des intérêts des mousses, d'ailleurs, c'est que ça permet de faire des matériaux avec très peu de matière. Parlons des matériaux isolants ou des matériaux avec des propriétés mécaniques assez remarquables. Et vous aviez une autre question, je crois.
C'est... Alors, en théorie, par exemple, quand on met du sel dans de l'eau, on augmente très légèrement la tension de surface de l'eau. Mais en pratique... Non, je crois pas. C'est pas lié à ça. C'est vraiment lié au fait que les ions n'aiment pas être proches de la surface. Du coup, ça augmente vraiment l'énergie de cette interface-là. Mais c'est très, très peu, quoi. Enfin, il faut dire que l'eau est vraiment anormale dans ce sens-là. C'est que cette énergie de surface, elle est vraiment exceptionnellement élevée pour un liquide. Quand on regarde les alcanes, par exemple, la plupart des alcanes ont des tensions de surface qui sont de l'ordre de 20 millinewtons par mètre, donc qui sont plus basses que même les films stabilisés là, avec des tensions actives. Oui, alors les métaux liquides, c'est tout à fait autre chose encore. Oui.
Des gouttes, oui.
Oui, les gouttes, effectivement, là, les petits jeux qu'on avait dans le temps avec du mercure, ça faisait vraiment des gouttes. Parce que la taille caractéristique donc qui vient de la compétition entre la pesanteur et la tension de surface, ben pour le mercure elle est plus grande que pour l'eau, bien que la densité soit beaucoup plus forte, parce que aussi la tension de surface elle est aussi un ordre de grandeur plus grand.
Mais c'est pas tout à fait ce que disait monsieur, qui était rajouter quelque chose à un liquide. Et en fait, ce qui fait que il n'y a pas grand chose qui, à part ce que disait Pierre, des effets assez subtils de sel dans l'eau, qui, quand on le rajoute dans un liquide, va venir augmenter sa tension de surface, parce que si ça avait tendance à augmenter sa tension de surface, ça se mettrait pas à l'interface. Donc, ça se mettrait pas à l'interface. Oui. Parce que ça va coûter de l'énergie. Plus.
Donc, en fait, de l'eau très propre ne reste pas très propre longtemps parce que ça attire tout. Donc, s'il y a des vapeurs dans l'atmosphère, elles vont avoir tendance à se mettre à la surface. Et donc, mesurer de l'eau pure, ben, vous pouvez, si vous la laissez à l'air libre pendant un petit moment, ça finit par descendre parce qu'il y a plein de saletés qui s'absorbent dessus.
Il y a d'autres questions ? Oui.
Oula.
Alors nous on est aux interfaces.
Ouais, donc je pense pas que ce soit un effet de surface spécifiquement, la mémoire de l'eau. C'est un effet très controversé. Je pense que du point de vue physique, en général, la plupart des gens disent que ça n'existe pas. Voilà. Après, tous les médicaments homéopathiques ne sont pas utilisés à des doses suffisamment faibles pour qu'il ne reste plus de molécules. Mais il y a quand même certains médicaments qui sont dilués une trentaine de fois d'un facteur 100, ce qui fait que quand on compte le nombre de molécules qui sont censées rester, il n'y en a plus une seule dans le comprimé qu'on vous donne, statistiquement. Sur celle-là, typiquement, je ne crois pas que la mémoire de l'eau... vraiment agir, mais
et ça a peu de lien finalement avec ce qu'on a présenté, parce que nous on a surtout regardé les liquides aux interfaces. Après, c'est vrai qu'on peut imaginer que quand il y a une molécule présente dans l'eau, bah, il y a une interface entre cette molécule et l'eau, et donc il y a aussi des propriétés d'interface, mais qui sont plus microscopiques. Mais il n'y a pas de lien direct a priori. Et homéopathie, c'est assez... Faire attention qu'il y a deux choses. Il y a homéopathie, ça veut plutôt dire soigner par son contraire. Et après, il y a la notion de dose homéopathique qui, en effet, donc tout ce que disait Pierre est tout à fait vrai. Il y a tous les médicaments présentés comme homéopathiques sont pas tous à des doses homéopathiques où il y a a priori plus de principes actifs dans la solution. Il y en a qui sont vendus, qui sont avec des doses qui sont tout à fait compatibles avec ce qui, avec la, enfin, il reste du principe actif dans le petit comprimé. Oui, d'autres questions ?
crois qu'on peut être plus catégorique que ce que tu as dit sur le fait que c'était controversé. Il n'y a pas de, où il n'y a aucune étude qui montre quoi que ce soit sur la mémoire de l'eau. Je pense qu'on peut, on peut être catégorique là-dessus.
Tout à fait. Ouais.
Voilà.
Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ça... mais mémoire de l'eau et homéopathie, c'est pas tout à fait la même chose. Les gens ont fait un lien aussi, mais
dans ce domaine-là, il faut se souvenir de l'effet placebo.
Pour l'homéopathie, pas pour la mémoire de l'eau. Ouais.
Y a-t-il encore questions, d'autres questions? Excusez-moi, j'ai pas entendu.
Alors, le preuve.
Oh, il est passé le film finalement.
Mais non, mais j'ai changé d'ordinateur.
Ah, t'as changé d'ordinateur. Ah, bah voilà.
Alors, il y a du son, mais je sais pas si vous l'entendez bien. Je t'avais pas pris.
Ce qui manque un peu, c'est que il va y avoir un filtrage. Ce qui fait les couleurs, c'est qu'il va y avoir un filtrage interférentiel en fonction de l'épaisseur du film. Mais bon. On n'avait pas prévu de parler ça de la semaine prochaine parce que c'est un peu difficile de faire vraiment des expériences chez soi un peu quantitatives ou semi-quantitatives avec ça, mais voilà, si vous avez. D'autres questions, ouais. Ouais. C'est une très bonne question. Alors, non, je pense que je suis pas complètement sûr.
Il me semble qu'elles savent effectivement avancer. Je pense que c'est lié à des histoires d'angle et de mouvements brutaux. Alors, je sais pas très bien.
C'est aussi ce que tu disais, le côté mouvement brutal. Quand on tape très fort sur l'eau, l'eau coule pas. On a fait un plat à la piscine.
Ça fait mal.
On a trouvé la limite entre les bas nombres. C'est une bonne question. Je ne sais pas comment la prendre.
Ouais. Alors évidemment, ça se transpose pas à nos tailles, simplement parce que quand on monte en poids, le problème c'est qu'il nous faudrait beaucoup une longueur de contact qui ferait plusieurs kilomètres pour arriver à supporter notre poids total, donc c'est difficilement utilisable à des tailles plus grandes que ces petits insectes. Quoi. Ce genre de phénomène.
Oui, on pourra tout à fait le mettre en ligne sur le site web de Physique pour tous, physiquepourtous.unistra.fr, dans la rubrique de ce cycle de cours. On y mettra la présentation, peut-être on rajoutera les films si vous voulez bien nous les donner, et puis on rajoutera cette petite recette. Apparemment, elle est déjà en ligne quelque part. Bon, on verra ça. pour une fête de la science. C'est ici, ça s'appelle Défibulde. Si vous cherchez Défibulde, peut-être que vous trouverez ça. Voilà. En attendant, on se retrouve donc la semaine prochaine pour la deuxième partie de ces séries, de ces cours sur les films et les bulles. Voilà. Merci.